Alors, si vous voulez bien, nous continuons sur la question de l'autochtonie. Et merci François, Quentin, vraiment de nous aider à démonter cette notion, montrer combien cette mythologie inhérente à cette notion. Mais qu'en même temps, c'est une mythologie active. Hein. Au départ, tu disais, c'est du registre de l'imaginaire, mais c'est un imaginaire actif qui a vraiment construit des choses très très fondamentales, y compris un citoyen mineur, qu'il soit femme ou qu'il soit étranger. Alors, tu le rappelais, effectivement, cette notion d'autochtonie, elle a été remise au goût du jour en sociologie. Et vous trouverez des auteurs qui, ces dernières années, ont parlé de capital d'autochtonie en lien avec les classes populaires. Et notamment Nicolas Renaï trouverait des travaux là-dessus sur capital d'autochtonie et classes populaires. Et en fait, pour le dire vite, cette notion de capital d'autochtonie employée par les sociologues, eh bien, elle consiste à dire qu'il y a un ensemble de ressources symboliques, économiques, culturelles, que procure l'appartenance à des réseaux localisés. C'est parce qu'on est et qui profite aux classes populaires en particulier. Voilà, donc il y a toute une réflexion sur cette notion de capital d'autochtonie en lien avec ces classes populaires qui trouvent en quelque sorte le moyen d'une mobilité sociale ou d'une survie grâce à cette notoriété et ces ressources qu'ils peuvent entretenir dans un territoire singulier. Alors moi j'avais deux questions à poser, donc j'ai eu le privilège effectivement de lire cet ouvrage. Et de le discuter avec François Quentin, tout en étant sociologue, donc avec ses limites, bien entendu, disciplinaire et épistémologique. Mais j'aurais voulu revenir sur deux questions. La première, elle traite plutôt des enjeux politiques de cette notion, et sur la longue durée. Et puis la seconde porte plutôt sur l'apport heuristique quand même de cette notion. Alors, on a bien compris, ce n'est pas un concept, il faut être très prudent quand on l'utilise, on peut même la rejeter, mais je me dis, est-ce qu'on peut jeter cette notion tout en gardant l'eau du bain? C'est-à-dire le questionnement qu'il y a quand même autour et qui est tiré même de ce questionnement critique et clairvoyant que tu nous... que tu nous suggères et que tu m'en arrives. Alors, la première question sur l'autochtonie dans les enjeux politiques sur la longue durée. Alors, il me semble, si j'ai bien compris ton écrit, que tu nous dis que dans la période antique, finalement, l'autochtonie n'est pas liée à un régime politique particulier, mais qu'il est plutôt lié à l'émergence concurrentielle des États dans un contexte et à un moment de la création d'une vaste culture commune, l'hellénisme. Et c'est finalement dans ce moment de constitution de cette vaste culture hellénique qu'il y a à l'intérieur des rivalités d'États, des conflits, on va se battre pour établir des critères, et émerge à ce moment-là le discours national et les revendications d'autochtonie. Alors, quand moi je te dis, bien forcément, cela fait écho à ce que nous vivons aujourd'hui, avec la formation d'une commune culture européenne qui s'accompagne en même temps de rivalités, de revendications nationalistes, comme on le disait, et de revendications à l'autochtonie. Alors donc là, j'y vois un parallèle un peu troublant. En même temps, tu nous dis, si je t'ai bien lu, que ce même mouvement qui relie donc la formation, on va dire, d'un vaste espace culturel, en même temps à la revendication d'une autochtonie par les États, à l'intérieur de ce vaste espace culturel, tu nous dis en même temps que ça, ce n'est pas, même si ça se répète, ou que ça, toute chose égale par ailleurs, ce n'est pas pour autant mécanique, et qu'il y a eu d'autres périodes historiques, comme le monde romain, où l'attachement à la République ou à la notion d'empire n'a jamais été formulé par la notion d'autochtonie. Donc ça, c'est la première leçon. Voilà, savoir si tu peux nous en dire plus là-dessus. Qu'est-ce qui fait que dans le monde romain, finalement, on n'emploie pas cette notion d'autochtonie tout en construisant un empire? Voilà, donc ça, si tu as des éléments de réponse, Et puis la deuxième question, donc elle, je le disais, hein, c'est finalement, qu'est-ce qu'on peut quand même tirer pour avoir une vision moins inquiète finalement que ce que tu proposes, c'est est-ce que on peut avoir une vision plus optimiste et se dire, eh ben finalement, de cette notion, puisqu'on va la questionner de manière critique et on va vraiment la décortiquer et être clairvoyant là-dessus, on va quand même en tirer quelques pistes de réflexion. Et on le rappelait en introduction, par exemple, moi il me semble qu'une des pistes, c'est finalement de garder quand même ce questionnement, peut-on cesser d'être autochtone ou le redevenir, mais différemment, comme on l'a vu. Et sur ce point, j'ai en tête donc des recherches interdisciplinaires qui me semblent tout à fait intéressantes et qui peuvent apporter des éléments de réponse en ce sens. Ce sont ces recherches qui portent sur, d'ailleurs interdisciplinaires, qui portent sur les populations des territoires d'outre-mer qui sont restées sous souveraineté française après la décolonisation des années 60. Donc la Guyane, par exemple, la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie, pour en citer quelques-uns. Et donc ces recherches, à partir d'un questionnement sur l'autochtonie et sur ces autochtones de la République, eh bien, il y a toute une réflexion qui en découle. Où et quand s'arrête le processus colonial? Peut-on sortir du colonialisme sur ces terrains? Et si oui, comment? Qu'est-ce que finalement décoloniser ou plus généralement sortir du colonial? Voilà. Il me semble que ce sont aussi des interrogations que Laurent, tu traites aussi dans tes travaux. Et je me demandais donc sur ce point, est-ce que l'archéologie, mais d'une certaine manière tu y as répondu quand tu as parlé de la question des origines, est-ce que l'archéologie peut s'ouvrir ou pourrait s'ouvrir à de nouvelles pistes de recherche justement à partir de ce questionnement critique et clairvoyant que tu proposes, mais fort de ça finalement proposer des recherches. Alors, mais tu l'as un peu dit à propos des travaux récents qui remettent la question de l'origine sur le tapis, tout en retravaillant et décomposant. Voilà. Voilà, et en fait, oui, effectivement, alors on va prendre une série de questions parce qu'il est bientôt l'heure. Alors si vous avez des questions, Farida, n'hésitez pas à poser des questions.
Moi j'avais quelques éléments en fait de réflexion avec vous, parce que c'était à la fois le retour et la question de l'autochtonie sont des concepts très stimulants. Là aussi moi je vais parler peut-être d'une perspective un peu disciplinaire, moi je suis politiste, on a tous nos défauts, et la question du retour, elle a une place dans l'imaginaire des migrants, mais elle a aussi une place très importante dans les imaginaires des sociétés et des États qui les voient partir et qui les voient arriver également, parce que pendant très longtemps, il y a eu ce mythe qu'en fait, les personnes étaient là de façon provisoire, du côté des pays dits de destination, comme la France, où on voyait des travailleurs qui allaient repartir une fois qu'on allait demander de repartir, notamment avec des politiques de retour des années 70, mais aussi donc, du côté des pays de départ, où en fait dans le discours politique, les migrants, la migration c'était un mal nécessaire pour se reconstruire, notamment dans les États maghrébins, mais on allait revenir, c'est pour ça qu'on a des programmes qui existent encore aujourd'hui, type enseignement de la langue d'origine, pour les deuxième, troisième génération, voire plus. Donc cette question, en fait ce retour qui est tellement pivotal à la fois dans les itinéraires personnels, mais aussi dans la manière dont les États ont structuré leur action publique. Et là, aussi la deuxième chose par rapport à ce retour qui est tellement polysémique finalement qu'il en devient presque gênant, en tout cas de premier abord, parce que moi en tant que politiste et quelqu'un qui travaille plutôt sur les types de migration dites irrégulières, non documentées, je pense, on me dit retour, je pense aide au retour volontaire, je pense programme de migration temporaire, et donc je pense à des dispositifs en fait qui veulent forcer en fait le retour, qui sont une forme, en fait le retour devient un euphémisme parfois pour une expulsion à travers des dispositifs qui sont mis en place soit par des États, soit par des organisations internationales telles que l'OIM, etc. Donc à penser ce retour, pas non seulement pas comme quelque chose de très beau, parce qu'on a vu tous les côtés négatifs de l'autochtonie, mais le retour aussi à un versant un petit peu négatif. La deuxième le deuxième élément, peut-être que je vais essayer de ne pas garder la parole très longtemps, mais peut-être pour les étudiants aussi qui sont aujourd'hui ici, vous avez pas mal parlé de Sayad, et il y a un autre texte où il parle beaucoup du retour, c'est celui qui s'appelle El-Horba, l'exil, ou les mécanismes de reproduction de l'immigration, qui est un texte qui parle plutôt de la question des imaginaires migratoires, et où, comme Sayad le fait parfois, en fait, on a vraiment un entretien, et avec en parallèle, de façon séparée graphiquement, l'analyse du sociologue, et il y a des choses très intéressantes qui sont dites sur ce retour, dans la construction des imaginaires migratoires, en fait, à partir du pays de départ. Et là, ça va même revenir à l'autochtonie. Je vais citer que quelques courts extraits, parce que je ne vais pas... Et donc, en fait, déjà, sur la question dont tu parlais, Sylvie, au départ, sur « on revient, mais on ne revient pas le même ». Donc là, c'est un jeune qui parle des vieux qui sont partis en France et qui sont revenus, en fait, dans son village de Cabilly. Et il dit d'eux « ils sont tout cassés, bon seulement pour dormir jusqu'au plus chaud de la mi-journée ». Cela, le pays leur convient. Maintenant que la France, ils ont ramené leur... de la France, ils ont ramené leur carcasse, c'est tout ce qu'elle leur a laissé, un tas d'os qu'ils ont préservé. Il ne leur reste que cela, l'essentiel, le vif, ils l'ont laissé en France. D'ailleurs, ils sont tous revenus, avec quelque chose, certains une retraite, d'autres une pension d'invalidité. Ils ont ramené avec eux de la France leur part. La France continue à la secourir, et ce qu'elle leur donne leur suffit. C'est autant de... Et donc, déjà, il y a cet élément-là de revenir avec quelque chose, mais finalement, revenir avec moins que ce qu'on était parti. Et ce qui est intéressant, après, c'est que le village devient plus le village. En fait, on perd l'autochtonie avec ces gens qui viennent et qui partent. En fait, le territoire change, parce qu'il finit, à force de ce discours sur la France qui hante, il dit « Notre village est un village mangé par la France, personne n'y échappe. » Et donc, en fait, l'autochtonie disparaît avec les personnes, en fait.
Et c'est un village qui fabrique de l'allochtone.
Oui, exactement.
Alors, il y avait une autre question. On va prendre une série de questions et puis...
Sur les deux questions, la première, c'est sur les retours. Je voulais savoir si, selon vous, c'est encore possible de parler des retours dans cette zone classique. Et c'est par contre, dans ces moments de transnationalisme, dans lesquels il y a plus de circulation, pas pour tous les migrations, évidemment, mais je parle aussi de la nôtre, par exemple, dans le domaine de l'université. Donc, il y a vraiment une ouverture à la circulation entre des lieux, des destins qui sont plusieurs. Et l'origine, mais que c'est vraiment, je crois, la distance, c'est un peu réduite, non? Et donc, l'image classique de Sayad, au sens de cette étrangérité étrangère, cette étrangère là et ici, c'est encore comme ça, ou si c'est un peu changé. Et aussi, en relation à l'idée d'autochtonie, je me demande si dans l'idée des autos, il y a aussi un peu l'idée de partager les mêmes territoires. Et donc, une accession un peu plus communautaire et pas seulement géographique. Et donc, si dans cette idée, on peut élargir un peu l'idée. Et donc, ce n'est pas seulement d'être né dans ce territoire, mais partager les destins de quel territoire et donc élargir la dimension aussi à qui n'est pas né dans les territoires, mais dans les moments où ils vivent là et donc partagent avec moi les mêmes destins. Et donc,
alors, je peux répondre rapidement. Ah. Oui, parce que auto, c'est ou un pronom réflexif ou démonstratif. Donc son sens est parfaitement clair, il ne peut pas renvoyer à du communautaire, pour le grec. Hein.
Oui.
Encore une fois, ça veut dire qu'il faut changer de mot si on veut parler de ce nom, ce que vous évoquez, qui serait plutôt le sens sociologique moderne, mais changeant de mot, parce que le mot est inadéquat.
Il y avait une question encore de Céline. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut terminer avec cette série de questions. Oui, Constance?
Non, parce qu'on a très peu de temps, les réponses. François, comme tu nous éclaires étymologiquement parlant, qu'est-ce que tu penses du mot native?
Alors, native, oui, c'est, oui, natif, oui, on en... Alors, tout ça, c'est des mots comme allochtone, d'ailleurs, qui sont relativement récents, qui sont nés en géologie, en zoologie, en biologie. Alors, biologie, ça se peut comprendre, mais c'est d'abord,
oui,
d'abord.
Pierre,
ah oui, oui, on parle d'une pierre native et des espèces allochtones quand elles viennent d'ailleurs. Donc, ça vient de la description du domaine naturel, de l'étendue. Là aussi, c'est une exportation du mot, et moi je crois que c'est pour ça que ça s'intègre aussi bien à la pensée post-coloniale, le mot autochtonie. c'est que c'est un mot qui sert aussi à décrire les nouveaux rapports que les anciens états coloniaux souhaitent entretenir avec leurs nouvelles populations indigènes, et c'est une indigénisation un petit peu forcée, alors qu'il me semble qu'il faut surtout une intégration commune à la citoyenneté, et ne pas créer des plusieurs niveaux de citoyenneté, et une véritable intégration, et non pas un statut particulier de population native.
Ça renvoie à l'origine.
Bah oui. Ouais.
C'est le problème.
En plus, rien ne prouve d'ailleurs que les Indiens dont on parle en Amérique du Nord, parce que les gens viennent beaucoup d'Amérique du Nord, du Canada et du Québec, rien ne prouve que les Indiens qui étaient là depuis longtemps aussi. C'est toute une réflexion, c'est une sorte de qualité dont il se passerait bien ces gens-là.
Alors, je suis désolée, mais vous avez à peu près 5 minutes, même pas, pour répondre à toutes ces questions. Bon, tant pis. Je me sacrifie, nous aurons peut-être l'occasion d'en discuter sans aucun doute avec toi, François.
Bah deux, trois minutes pour sur la question de l'imaginaire des États, oui, parce que ça me fait penser à ce que Sayad écrivait, penser l'immigration, c'est penser l'État, qui est le point de départ aussi la question de Noiriel par la suite. C'est vrai qu'il y a la question du retour mobilise souvent les imaginaires, mais elle permet aussi aux États de mettre en œuvre parfois des dispositifs qui sont d'une grande violence. Il y a des retours forcés, notamment les expulsions de l'année 30 de Polonais. Le million, je ne sais pas si vous avez vu l'histoire d'une nation qui est passée à la télévision, où le fameux couloir sur les rues, c'est quand même d'une très grande violence. Donc le retour est aussi une forme de violence, parce que inciter au retour, c'est vraiment dire que que t'es pas d'ici. Donc oui, il y a évidemment un versant négatif au retour.
Juste dire par rapport à ce que tu disais, qu'en fait, il y a vraiment un retournement de la politique dans les années 70 qui porte le plus, notamment du point de vue français, justement du point de vue des autorités françaises, il n'est pas question du retour. On est vraiment, au contraire, dans une politique d'assimilation. Et que l'idée du retour, c'est plutôt du côté des pays qui sont émetteurs, hein, notamment en particulier de l'Italie, qui eux n'ont de cesse de penser à faire rentrer leur population, alors qu'en France, on a de cesse de penser à les assimiler, à en faire, alors c'est pas des autochtones ou pas.
Après, oui, c'est vrai que le retour, enfin, celui qui c'est ce que vous disiez, le retour transforme forcément les autochtones. Ça, c'est... Et parce qu'il y a cette dialectique, cette transformation perpétuelle. Et pour la question posée sur les circulations migratoires, et je crois que ça renvoie à quelque chose que Céline connaît bien, c'est qu'on, pendant très longtemps, on a eu une vision souvent très simplifiée des migrations. C'est-à-dire, en fait, qu'on nous considérait qu'un migrant partait d'un point A et se rendait dans un point B. Or, on s'aperçoit aujourd'hui, c'est simplement pas parce que la question des circulations migratoires est à la mode, mais on sait qu'aujourd'hui, les migrants, en réalité, ont des itinéraires d'immigration. Donc, si vous prenez les Portugais, ils passent la frontière, puis ils arrivent à Champigny, puis de Champigny, ils vont ailleurs, etc. Donc, en fait, la question du retour, et du coup, est très compliquée. Retour à quoi? Retour à quoi? C'est pas forcément un retour au point de départ, parce que le point de départ, il est variable. C'est-à-dire qu'on peut... à Marseille, c'est bien connu, on va rester plusieurs années dans ce quartier, puis après dans un autre, etc. C'est espèce de... Voilà. Donc oui, la circulation des migrants. Je pense en effet que la question du retour doit être aussi complexifiée par cette idée de circulation et d'étapes différentes dans le processus migratoire.
Une réaction liée à ta question. Tu as posé plusieurs questions. Il y a deux choses qui me semblent importantes à dire dans les cas des questions que tu as posées. C'est que, ce qui me semble être le principal défaut de l'autochtonie, de la théorie autochtone aujourd'hui et des idées autochtones, c'est qu'elles vont contre les identités multiples. Elles empêchent les identités multiples. Et donc, dans le monde post-colonial, ça, c'est quelque chose qui me paraît être grave. C'est-à-dire que c'est un fondamentalisme essentialiste qu'on oppose à une évolution historique qui, globalement, est quand même plutôt dans le bon sens avec ses identités multiples, me semble-t-il. Deuxième chose, tu as parlé gentiment d'archéologie. L'archéologie risque, et elle le fut, d'être une science de l'autochtonie. Elle a tendance à démontrer l'origine par nature. L'archéologie, c'est ça, c'est explorer les origines. Alors, il ne faut pas oublier une chose, et c'est un praticien de cette discipline-là qui le dit, c'est que la plupart des conclusions d'analyse de mobilier en archéologie, de phénomènes artistiques, de phénomènes intellectuels, ne parviennent jamais à montrer l'origine.
La mobilité, c'est pas ça.
Voilà. Donc on ne peut pas dire qu'une forme d'épingle de l'âge du bronze en Suède est née là. Ça, c'est, on ne peut jamais le dire, parce qu'on trouve toujours quelque chose qui est un peu plus ancien et qui lui ressemble. C'est tout simplement la continuité de la vie biologique et de la vie intellectuelle et de la vie artistique. Et voilà. Donc l'autochtonie va aussi contre, et l'archéologie peut être aussi une manière de lutter. Elle peut être une archéologie militante anti-autochtone. Voilà.
Merci beaucoup à François Quentin, Laurent Dornel pour ces échanges passionnants.
Merci à vous. Merci.